Nous voici réunis en cette 14e rencontre du catéchisme pour adultes. La semaine dernière, nous avons commencé à parler, à méditer, à approfondir cette vie commune que nous vivons ici-bas, une vie en communauté, une vie en société qui est dirigée vers le bien qui nous est commun. Ce bien qui nous est commun va rechercher la félicité naturelle ici-bas sur la terre. Il ne s'agit pas simplement pour l'homme de vivre, il ne s'agit pas non plus simplement de survivre, il s'agit véritablement de vivre au sens plein du terme, en société, et du coup de pouvoir assouvir un certain nombre de besoins. Il y a bien sûr la nature de l'homme, mais l'homme a comme toujours déjà franchi la frontière entre la nature et la culture, et dès que l'homme va poser un certain nombre d'actes, il ne va plus simplement s'agir de sa nature, mais voilà que la culture va venir apporter une tradition dans telle recette de cuisine, dans la façon de bâtir, dans la façon d'organiser la vie ici-bas. Nous avions parlé la semaine dernière au sein de cette vie commune d'un trait important qui est l'exercice de l'autorité. Et nous avions dit que toute autorité vient de Dieu, c'est ce qu'affirme l'apôtre saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 13. Oui, toute autorité, qu'elle soit celle du père de famille ou celle du chef de l'État, est une participation à l'autorité divine. Si les enfants ont à obéir à leurs parents, c'est parce que non seulement dans les commandements il nous est bien dit « tu honoreras ton père et ta mère », mais ce n'est pas à mettre en opposition avec ce qui est au commencement des commandements, l'adoration de Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu l'adoreras de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Bon. Alors, pourquoi il n'y a pas d'opposition ? Parce que lorsque j'honore mon père et ma mère, j'honore leur dignité, et qu'il est dans leur dignité d'avoir reçu cette autorité sur les enfants, et cette autorité vient de Dieu, de telle sorte que j'honore et mon père et ma mère, et qu'à travers eux, j'honore l'autorité divine. De même en est-il pour le chef de l'État. Le chef de l'État, ce n'est pas simplement un homme parmi tant d'autres, il a la responsabilité de l'État, ça peut être une responsabilité collective, nous leur devons le respect, eh bien, parce qu'ils exercent cette autorité au nom du bien commun, et que comme toute autorité vient de Dieu, à travers eux, c'est Dieu que nous honorons. Cela posera également des problèmes lorsque la vie morale des gouvernants pourra choquer les peuples, lorsque les lois qu'ils prendront seront mauvaises. Mais laissons pour l'heure toutes ces conséquences de péché, attachons-nous aux réalités simples, si l'on peut dire. Toute autorité vient de Dieu. Lorsque j'honore mon père et ma mère, lorsque j'honore le chef de l'État ou le gendarme, etc., qui exerce l'autorité, eh bien, j'honore Dieu. De telle sorte que désobéir à une autorité légitime et lorsque ce qu'elle demande vise le bien commun, est un péché. Et là, puisque nous avions vu qu'il y avait la réalité naturelle et la réalité surnaturelle, là nous touchons déjà du doigt une réalité surnaturelle. On pourrait parler d'une faute juridique qui doit être punie dans le monde naturel, mais nous parlons également de péché lorsque nous sommes dans ce rapport à Dieu. Si je n'honore pas mon père et ma mère, si je leur manque de respect, non seulement je pèche contre mes parents, mais en termes ultimes, je pèche contre Dieu. Souvenons-nous de ce que dit ce fils prodigue lorsque, précise Saint Luc, il entre en lui-même, donc du coup il s'introspecte, il regarde un peu son agir, et il se rend compte que finalement il n'était pas si maltraité chez son père, et que dit-il ? Il prévoit de dire « Père, j'ai péché, pas simplement contre toi, Père, j'ai péché contre le ciel !» Et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans cet exemple de la parabole du Seigneur, on voit bien que le fils qui se dérobe à l'autorité parentale, non seulement manque de respect à ses parents, mais tout autant à Dieu. De même en est-il, pour le citoyen chrétien dans le monde, il est soumis aux lois, et si je manque à la loi, eh bien voilà que je commets également un péché. Le catéchisme de l'Église catholique, pour prendre un exemple, dit bien que toute infraction au code de la route est un péché, puisque c'est pour un juste motif, pour le bien commun de tous, la sécurité de tous, et bien que ces lois sont posées. Alors, je laisse, je l'ai dit, les cas de ces sociétés dans lesquelles nous sommes, où il n'y a plus de respect de la loi naturelle, puisque Nous approfondirons ce genre de sujet un peu plus tard. Tout d'abord, il nous faut revenir à ces réalités un peu fondamentales. Avec cette question de l'autorité, il faut également se poser la question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il la vie commune ? Pourquoi également Dieu a-t-il donné l'autorité ? L'autorité que donne Dieu accorde une dignité à sa créature. De même, Dieu aurait pu créer un monde plus parfait qu'il n'est. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a voulu que nous qui sommes des créatures spirituelles, les hommes ici-bas sur la terre, eh bien, nous participions au perfectionnement du monde. Cela veut dire que non seulement Dieu nous crée, mais nous donne déjà cette dignité, eh bien, de nous laisser la liberté de nous organiser et en s'organisant, si vous voulez, d'exprimer quelque chose. L'homme a toujours comme déjà franchi la frontière entre la nature et la culture. Pourquoi ? Parce que l'homme, il ne fait pas que vivre. Le fait de vivre, c'est ce qu'on appelle, c'est très français, l'art de vivre. Il y a une façon de vivre. Et lorsqu'on réfléchit, le petit enfant, il apprend un art de vivre. On va lui apprendre comment on mange, à quels horaires, qu'est-ce que l'on mange, comment on a préparé telle et telle nourriture. Ce n'est pas anodin. L'homme, ce n'est pas simplement un animal qui va se mettre à manger l'herbe parce qu'il l'a trouvée comme cela. Nous ramassons l'herbe, nous la lavons, c'est ce que nous appelons de la salade, et nous allons l'assaisonner. C'est un exemple un peu terre à terre, mais ça vous fait comprendre, si vous voulez, que chaque fois que l'homme fait quelque chose, il n'agit pas simplement par nature, il ne vit pas seulement pour survivre. Voilà qu'il va développer une culture. Donc, voyez comment aussi, eh bien, il y a quelque chose qui, de cette vie commune, rejaillit. On ne vit pas de la même façon en France qu'en Espagne, qu'en Angleterre, qu'en Afrique, qu'en Asie. Il y a quand même des spécificités qui tiennent à la fois au lieu même où nous vivons, parce qu'il y a le terroir, il y a la géologie, la météo, qui va aussi influencer notre caractère. Et puis, il va y avoir l'histoire dans laquelle nous entrons. Les peuples ne sont pas interchangeables, chacun a sa culture, sa façon de faire, et cela participe, si vous voulez, à une grande richesse. La richesse, eh bien, il y a différentes façons de vivre et de bien vivre. C'est d'ailleurs avec cette question qu'est née, 6 siècles avant la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ, la philosophie. La philosophie qui va naître d'un personnage un peu énigmatique, qui est Socrate. Platon va nous rapporter un certain nombre de faits de Socrate, mais en fait c'est Platon qui mettra en scène le Socrate qu'il a connu, de telle sorte c'est quand même Platon qui parle et qui est en chacun de ses personnages. Je ferme la parenthèse. La philosophie s'ouvre donc du coup avec Socrate qui est l'homme qui pose des questions. Pourquoi ? Il ne s'agit pas simplement de se dire qu'il y a telle et telle réalité, la question est de se dire mais pourquoi donc il y a cette vie commune ? Qu'est-ce qui fait que nous devons vivre en société. Alors je vous ai dit, Dieu accorde cette dignité, mais la grande question avec laquelle naît la philosophie, c'est d'abord un constat, toute vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Non pas au sens où il y aurait des vies qui auraient plus de dignité que d'autres, c'est pas dans ce sens qu'il faut entendre la question, c'est de dire, je ne peux pas simplement vivre, survivre, vivre comme un animal, il faut au contraire que je cherche quelque chose. Et la philosophie va donc naître avec cette question, quelle vie vaut la peine d'être vécue, la vie au sens plein du terme, et c'est l'arete. C'est un mot grec qui signifie la vertu. Voilà ce que va rechercher la philosophie, elle va rechercher la vie bonne. Non seulement, et là je parle si vous voulez de philosophes païens, ils ne sont pas encore chrétiens, donc quelle vie faut-il vivre ? Donc il va falloir rechercher une vie vertueuse. Donc il va falloir bien vivre, donc il va falloir, et on se rend compte qu'il faut un certain nombre de conditions, même matérielles, pour pouvoir arriver à se poser ce genre de questions. Lorsqu'il s'agit de survivre, on n'a pas le temps de faire de la philosophie. Il faut chasser, il faut cueillir, il faut se défendre, il faut se protéger, il faut survivre. Mais l'homme n'est pas fait simplement pour survivre, il est fait pour vivre, et pour vivre en communauté. De telle sorte eh bien, qu'il va falloir rechercher également la vertu, le bien vivre. Ah bien sûr, En régime de péché, il est bien plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est une des interrogations de la poésie grecque, je crois que c'est un vers d'Hésiode qui s'interroge, comment se fait-il que les dieux, devant la vertu, aient placé la sueur ? Eh oui, c'est difficile de bien vivre, de bien agir. De telle sorte que la culture que nous formons ici-bas, elle a forcément un point d'ancrage dans la religion. Lorsque Platon, dans la République, va poser la théorie d'une société que l'on pourrait dire une société qu'il va fonder à son origine, donc c'est théorique, c'est comme une utopie, donc on va dire voilà, bien on va mettre des hommes ensemble, ensuite il va falloir savoir, mais alors qu'est-ce qu'il va falloir pour organiser la vie commune ? Et Platon très vite va se rendre compte que ce qui est au centre même de la vie commune, c'est la religion, la révélation du Dieu. D'ailleurs, le mot de théologie, théo en grec c'est Dieu, logis c'est parler, le langage raisonné sur Dieu, le mot de théologie fait sa première apparition dans la République de Platon. Au sens de dire, eh bien, dans la société parfaite, on ne va pas pouvoir, si vous voulez, on ne va pas pouvoir continuer à poser le polythéisme qu'hérite Platon de la tradition de ses pères. Alors il y a le dieu de la cité, puis il y a le dieu du commerce, et puis il y a le dieu de la navigation, et puis il y a... Non. D'abord, il trouve qu'il y a beaucoup trop de dieux. Donc du coup, on va remonter au dieu unique. C'est déjà conceptuellement, si vous voulez, quelque chose d'important de voir que par la raison naturelle, nous pouvons remonter à une cause commune, le dieu. Et ensuite, Platon se rend compte que dans l'Iliade et l'Odyssée, qui sont... pardonnez le parallèle, comme un peu la Bible, si vous voulez, du monde grec, c'est-à-dire le livre de référence, il se rend compte que entre Achille et Ulysse, Achille est une figure plus morale et il ne lui arrive que des déboires, alors que Ulysse, qui est un fief et filou, eh bien lui, il va s'en sortir. Et qu'il va y avoir des dieux qui vont être du côté d'Ulysse pour y compris faire ses malices, d'autres qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, et Platon de se dire non. Voilà quelle est la première loi au cœur même de la cité parfaite de Platon, c'est de dire, hein, c'est là où apparaît le mot théologie, lorsqu'il va falloir parler de Dieu, il va falloir poser comme principe immuable le fait que Dieu est bon. Et nous retrouvons cette bonté de Dieu que nous avons largement méditée dans cette théologie de la création. Il faut que le Dieu soit bon. En disant « ce n'est pas possible, s'il y a des dieux, ils ne peuvent pas être du côté du mal ». Et c'est une grande question de la République qui est celle de la justice. Qu'est-ce que cela est être juste ? Parce que la vie commune, elle va demander justement que tout soit ajusté, que tout soit à sa place. Je vous ai dit la semaine dernière, l'État ne doit pas prendre par exemple la place de la famille. Donc du coup, il faut toujours trouver, c'est ça aussi le bien commun, c'est la recherche de cet équilibre de la vie commune. C'est pourquoi il y a une autorité, elle a justement pour service de vérifier que tel corps de métier ne prenne pas plus de place qu'il n'en faut. Eh bien, il faut justement un juste équilibre. Alors, quand on se posait la question de la justice, c'est les premières pages de la République de Platon, on avait coutume de dire, bien, la justice, être juste, parce que je vous dis, on recherche la vertu, donc le bien vivre, être juste, c'est facile, c'est rendre du bien aux amis et rendre du mal aux ennemis. Alors, Platon, à travers tous ses personnages, manifeste bien que même l'homme vertueux, et c'est là où nous voyons comment nous arrivons presque à la révélation chrétienne par la raison, mais l'homme vertueux ne peut pas rendre du mal à ses amis. Il va devoir aussi rendre le bien. Donc c'est là où, vous voyez, on s'approche véritablement du point de vue de la raison, de la révélation que le Seigneur nous fait, à la fois sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain, sur cette prière pour les ennemis. Et je rappelle souvent aux gens qui en sont un peu surpris, oui, mais il les appelle quand même ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde naïf où tout le monde nous voudrait du bien. On pointe du doigt qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, mais même à ces gens qui nous veulent du mal, nous avons à leur rendre du bien. Platon arrive par des raisonnements à ce sujet lorsqu'il pense le fondement même de la vie commune. Il y a le Dieu, et le Dieu émanant de la bonté. Et voilà que cette bonté, eh bien, elle va devoir rejaillir et que l'homme qui doit bien vivre ne pourra pas rendre le mal à ceux qui lui ont fait du mal parce que sa dignité l'appelle à rendre le bien à ceux qui ont fait le mal. Alors là, on comprend que quand la philosophie naît, c'est vraiment la question de bien vivre, mais il n'y a pas une séparation que nous avons un peu trop aujourd'hui entre la morale et la politique. Dans la philosophie antique, c'est une même réalité. Aujourd'hui, on a tendance à dire, alors il y aura la morale à la maison, faites ce que vous voulez, puis il y aura la morale dans l'État, puis il y aura la vie publique, et puis il n'y aura pas de signes religieux dans la vie publique, et puis vous voyez tout ce genre de morcellement, hein, tout cela est venu, le pape Léon XIII nous dirait à partir de la Réforme, il n'a pas tort, dans ce qu'on pourrait appeler aussi l'esprit des Lumières, où on va commencer, si vous voulez, à diviser et à éclater la personne humaine. Il n'y a pas d'un côté le chrétien le dimanche, il n'y a pas, quand on est un patient, ben du coup, le médecin peut faire ce qu'il veut, etc., etc. Non, il y a une unité, une cohérence de vie, ce qu'on peut appeler la vie bonne, hein, ou être toujours ajusté eh bien, à la bonté de Dieu. Donc, c'est finalement très difficile, et cet équilibre est forcément instable, d'autant plus que cette vie commune, cette société, au sens plein du terme que nous allons former, elle va être marquée par les conséquences du péché. Lorsqu'on a médité les dons préternaturels d'Adam, on a vu comment Adam et Ève étaient parfaitement ajustés. Il n'y avait pas les appétits sensibles d'Adam ou d'Ève qui venaient dérégler leur parfaite harmonie. La raison est faite pour commander, la volonté est faite pour être la force qui est du côté de la raison, et les appétits sensibles sont là pour manifester les besoins du corps, mais la raison commande. Mais voilà qu'avec le péché, il n'y a plus ce don d'intégrité, mais qu'il va y avoir, eh bien, en nous-mêmes déjà, des tensions, le péché qui va survenir dans les mauvaises actions, il peut y avoir la tentation, et puis on peut commettre cette tentation, et puis on peut vraiment l'actualiser par nos actes, justement, c'est pour ça que j'utilise le mot « actualiser ». Et finalement, tous ces péchés qu'on pourrait appeler des péchés actuels, parce qu'ils sont actualisés par les actes que nous posons, ont pour origine le péché qu'on appelle justement le péché originel. Ce que ont fait Adam et Ève, ben voilà que finalement nos actes sont la conséquence de ce premier péché des origines, et c'est un péché puisque je me détourne de Dieu, je me détourne finalement de sa bonté. Par exemple, lorsque je décide de ne faire plaisir qu'à moi, vous voyez que je corresponds à un besoin naturel, je fais quand même le bien, mais mon propre bien à moi, comme si je m'excluais du bien commun, je ne pense qu'à moi. Un des problèmes de notre époque, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est au lieu de chercher le principe d'unité de la vie commune et de la personne humaine, eh bien voilà qu'on va au contraire éclater cette unité et on finira par théoriser quelque chose qui n'existe pas et qu'on appelle l'individu. On va le couper de la famille, on va l'envisager que dans le monde du travail, mais non, celui qui travaille, il est aussi peut-être père et mère de famille. Donc les horaires de travail doivent aussi permettre à celui qui travaille eh bien, de pouvoir assumer sa responsabilité de père et de mère de famille. Bien sûr, il y aura les vacances, mais il y aura aussi des disponibilités. Donc, vous voyez que, quel que soit le sujet, il va falloir aussi que l'État, dans son droit du travail, puisque je viens de prendre cet exemple, fasse attention à une femme qui travaille. Eh bien, c'est aussi une mère. Il va y avoir la grossesse à prendre en compte. J'entends beaucoup la question sur l'égalité des salaires. Et l'Église est, bien sûr, pour une forme d'égalité des salaires. Mais attention, il n'y a pas d'égalité dans ce monde. Une femme qui est enceinte, eh bien, elle va devoir s'arrêter un certain nombre de temps. Et les premiers mois, sa présence est vitale auprès de cet enfant. Tout cela est à prendre en compte. C'est juste un exemple sur le code du travail, mais vous voyez qu'ensuite, tout cet appareil législatif est une participation à cette loi qui nous vient de Dieu. Et il va falloir que la société que nous formons ici-bas, eh bien, pose un certain nombre de lois qui soient conformes à la loi divine. Les lois humaines doivent être conformes à la loi divine, mais il y a le péché. Tout ça, c'est-à-dire que tout ce que nous avons pu parler déjà du péché originel comme nous concernant personnellement, est vrai à une échelle plus grande au sein même de la société. Et ce n'est pas dans la société dans laquelle nous vivons, hein, ce n'est pas une société harmonieuse, au contraire, c'est une société disharmonieuse, une société qu'on pourrait dire désordonnée, puisque l'ordre naturel n'a plus pour référence l'ordre surnaturel, je vais y revenir. C'est déjà ce que Platon sent en disant que la vie commune ici-bas, eh bien, elle doit d'abord regarder là-bas. Alors chez Platon, le ici désigne vraiment la cité, le là-bas c'est pour lui le monde des idées, et il va falloir que cette vie ici-bas soit conforme au là-bas, à cette vie au-dessus. Alors on retrouve là quelque chose de chrétien. Que va nous dire le Seigneur Jésus ? Qu'il nous faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Donc du coup, voyez, le chrétien, il vit dans sa famille, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné de surcroît. Nous comprenons aussi, en ayant médité cette bonté de Dieu, que si Dieu nous a mis ici-bas sur la terre, eh bien Dieu est provident. Il va faire en sorte de pourvoir à nos besoins. Alors bien sûr, avec le péché, on a plutôt davantage envie de compter sur soi, sur ses qualités qu'on va mettre au profit de la société pour gagner de l'argent et pour pouvoir s'en sortir par soi-même. Il y a beaucoup de choses très légitimes là-dedans. Mais on pourrait aussi se dire, moi j'ai pas besoin de Dieu, il est provident, je m'en fiche, je vais me débrouiller tout seul. Ben, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il faut à la fois se prendre à main, mais il faut aussi être ouvert par la foi à cette providence de Dieu et le Seigneur plusieurs fois dans l'Évangile. Nous rappelle, hein, disant, regardez les oiseaux, ils ne se posent pas des questions de nourriture, de vêtements, de boissons. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en surcroît. C'est un acte de foi, bien sûr. Alors, cette vie commune, pourquoi Dieu a-t-il voulu la vie commune ? Alors, on vient déjà de donner un certain nombre d'exemples, parce que cette vie commune, elle va nous permettre justement de perfectionner le monde. Et c'est une dignité qui est accordée aux créatures. Nous perfectionnons le monde. Alors, on est censé le perfectionner en vue du bien. Or, nous pouvons assister avec un certain nombre de lois au jour d'aujourd'hui à l'effet inverse. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y avait comme deux ordres, l'ordre naturel, celui de la cité dans laquelle nous vivons, et l'ordre surnaturel, qui n'est plus simplement la communauté naturelle d'une nation, la communauté surnaturelle. C'est ce que nous appelons l'Église. Alors, l'Église, elle va bien sûr s'efforcer de vivre en conformité avec Dieu, mais parce que l'Église a également une autorité, eh bien, cette autorité va être mise au profit des différents États pour les conseiller et les diriger dans le sens du bien. Ça ne veut pas dire que le pape, si vous voulez, va devenir le roi de France, le roi d'Angleterre, ou non. Il n'y a pas, si vous voulez, de confusion. Il y a au contraire une distinction des deux ordres qu'a voulu le bon Dieu, puisque nous avions vu qu'il y avait deux finalités. Une finalité naturelle qui est la recherche de la félicité commune. C'est pourquoi nous vivons ici-bas, pour essayer justement de vivre conformément ici-bas. Le Seigneur Jésus va nous dire « Le royaume est déjà parmi vous » parce qu'on doit déjà s'efforcer de vivre en tant que chrétien, eh bien, de l'esprit des béatitudes, l'attention aux pauvres, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, nous renvoie bien à cette mission qu'il y a dans le monde. Et ça a profondément marqué notre civilisation dans ce qu'on a pu appeler la chrétienté. Il y avait le roi de France, il légiférait, mais il légiférait en chrétien. Donc du coup, il n'allait pas pouvoir, si vous voulez, contredire la révélation de Dieu. Si le roi doit en venir à la peine de mort, c'est au nom du bien commun, parce que tel ou tel individu qui ne fait que récidiver met en danger les innocents et met en danger le bien qui nous est commun. Voilà pourquoi il faudra, en termes ultimes, s'en débarrasser. Mais ce n'est pas n'importe qui décide de ce droit de vie et de mort. On voit bien comment cette autorité ne peut venir, si vous voulez, que de Dieu et le discernement moral que va devoir faire le chef d'État. De même, le chef d'État comme Dieu, si vous voulez, Dieu qui est miséricordieux, peut aussi gracier telle ou telle personne, malgré ses péchés. Donc on voit bien que tout cela, si vous voulez, est quelque chose de profondément divin. Donc si ainsi nous avons à vivre ici-bas en conformité avec la loi du ciel, hein, c'est parce que justement il y a cet ordo qui nous permet des réalités naturelles à nous élever aux réalités surnaturelles. Je voudrais lire deux passages. Le premier d'une encyclique que nous avons un petit peu lue la semaine dernière, c'est toujours extrait de cette encyclique de Léon XIII, « Dii Turnumi Lud », en date du 29 juin 1981, où, dans un court paragraphe que je vais commenter, eh bien, le pape Léon XIII nous parle de cette vie commune et de ce qui fait de la raison, pardon, pour lesquelles les hommes se réunissent. Je lis donc. « Ce qui réunit les hommes pour les faire vivre en société, c'est la loi de la nature. » Nous l'avions dit la semaine dernière, l'homme, si vous voulez, est un animal grégaire, il doit vivre, alors non pas en troupeau, mais en communauté, c'est-à-dire en société. « Ce qui réunit les hommes pour les faire vivre en société, c'est la loi de la nature ou, plus exactement, la volonté de Dieu, auteur de la nature. C'est une remarque très intéressante. À la fois, on parle de loi de la nature et puis on parle de volonté de Dieu. Et le pape Léon XIII de bien montrer qu'il s'agit de la même réalité. Du point de vue des réalités naturelles, on va appeler ça les lois de la nature. Mais du point de vue chrétien, on appelle ça, si vous voulez, la volonté de Dieu. Parce que Dieu est l'auteur de la nature et donc des lois. On l'a vu dans la création, Dieu ne se contente pas simplement de façonner la terre, mais il lui donne un ordre. Et nous avons vu que le bien qui se communique et qui donc marque profondément la création, nous recherchons toujours le bien. Même la fleur, elle va chercher son bien. Et puis, nous aussi, ici-bas, en vivant sur la terre, nous devons rechercher le bien, un bien qui nous est commun. Et finalement, ce bien commun n'est autre que Dieu, qui est le bien commun, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création. Je relis la phrase. « Ce qui réunit les hommes pour les faire vivre en société, c'est la loi de la nature ou, plus exactement, la volonté de Dieu, auteur de la nature. » En effet, à l'époque de Léon XIII, on va plutôt parler des lois de la nature en essayant de gommer qu'il y a un Dieu qui en est à l'origine. C'est pourquoi le pape ici réunit ces deux réalités. « C'est ce que prouve avec évidence et le don du langage, instrument principal des relations qui fondent la société, et tant de désirs qui naissent avec nous, et tant de besoins de premier ordre qui resteraient sans objet dans l'état d'isolement, mais qui trouvent leur satisfaction dès que les hommes se rapprochent et s'associent entre eux. » Alors, que nous dit le pape ? Il est très intéressant de constater effectivement que l'homme est doté du langage. Et le pape Léon XIII de bien remarquer, si l'homme parle, c'est bien parce que l'homme est un être, alors on pourrait dire en communication, d'accord, mais un homme qui est fait pour être en relation les uns avec les autres. Sinon Dieu n'aurait pas donné le langage. C'est bien que nous avons, en parlant, eh bien nous avons à bâtir un monde commun. Il y a des relations, il y a eu des expériences terribles qui ont été faites sous le Troisième Reich, celui du fait de mettre au monde des enfants, de les nourrir, mais de ne jamais leur adresser la parole. Du point de vue naturel, ils auraient dû vivre, ces enfants. Ils avaient de l'air dans leurs poumons, ils avaient de la nourriture, et ils meurent. Parce que on a besoin d'être en relation. Ben, on le comprend même du point de vue charnel, nous qui vivons avec nos corps. On comprend bien qu'on a besoin de son père, de sa mère, de la tendresse de son père et de sa mère. Le petit enfant a besoin de consolation. Que dit-il quand il tombe ? Il dit même pas « j'ai mal », il appelle maman ou papa. Il a d'abord besoin d'être consolé. Nous avons d'abord cet amour qui a besoin, si vous voulez, d'être honoré. Et puis, immédiatement, on va chercher ce contact et cette relation. Eh bien voilà, si nous avons le don du langage, c'est bien parce que nous sommes en relation les uns avec les autres et que cet outil qui nous est donné, eh bien, doit nous permettre de vivre en commun. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Le pape Léon XIII nous dit déjà, au fondement de la vie commune, il y a le don du langage. C'était également ce que nous avions vu avec Adam, c'est que le langage se reçoit. Je ne peux pas inventer un langage. Je reçois ce langage d'un autre, d'où la question de Adam et Ève qui parlaient. C'est bien Dieu qui leur a donné, on avait vu ça dans les dons préternaturels, qui a comme amorcé la pompe du langage. Et quelle est la mission d'Adam ? Par exemple, celle de nommer les animaux. Donc, il y a bien une réalité qui nous met en relation les uns avec les autres, c'est déjà le langage, le pape précise, instrument principal des relations qui fondent la société. Alors, on vit en société, tout d'abord, mais parce qu'on parle, parce qu'on doit être en relation les uns avec les autres. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je l'ai déjà un peu esquissé, il ne s'agit pas simplement de survivre, il s'agit de vivre. Or, pour vivre, nous dit le pape, il y a tant de désirs qui naissent avec nous et tant de besoins de premier ordre. D'abord, on est aux besoins de premier ordre. Mais rien que les besoins de premier ordre, il en faut des choses pour pouvoir vivre, qui resterait sans objet dans l'état d'isolement. Un homme qui serait ainsi, ou même une famille qui serait ainsi seule, Ben pour survivre, si vous voulez, il faut être un ensemble de famille. Parce que vous allez vous dire, alors il va falloir que je fasse des vêtements pour ma famille. Mais avant d'arriver aux vêtements, quand vous êtes dans les besoins de premier ordre, il en faut des choses avant d'arriver à un vêtement. Hein. Il faut en faire des choses. Il va falloir élever des animaux, il va falloir les tondre, il va falloir un certain nombre d'outils pour pouvoir sortir la laine, pour pouvoir vous voyez, tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est bien beau de penser un individu isolé de tout, mais ce n'est pas réaliste. C'est ce que diront tout d'abord Platon lorsqu'il va faire sa société idéale dans la République. Il va dire, bien, voilà, il va falloir, si vous voulez, des gens qui vont bâtir des maisons, il y en a d'autres qui vont devoir se consacrer à l'agriculture, il va falloir manger. Et le cordonnier pour marcher, c'est bien beau, mais il va falloir des chaussures. Vous imaginez tout ce qu'il faut aussi pour faire des chaussures. Et ensuite de dire, il va y avoir besoin d'échanger tous ces biens. C'est pourquoi Platon nous dira eh bien, que la monnaie, l'argent, est le symbole de l'échange. Parce que celui qui bâtit des maisons, ben vous imaginez, vous ne pouvez pas acheter des chaussures en échangeant une maison, comme une chaussure il faudrait faire pour que ce soit équivalent à une maison. Non seulement on voit par cet exemple que le pouvoir d'autorité va devoir mettre de l'ordre, mais que aussi la monnaie, le symbole de l'échange, nous dit Platon, va permettre aussi eh bien, de pouvoir vivre les uns avec les autres et de pouvoir échanger. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit aussi eh bien, de bâtir ce monde qui nous est commun, les besoins de premier ordre et tant d'autres qu'il y a après. Et il va falloir rechercher l'harmonie et l'unité. Donc, je reprends la phrase. Donc, le langage est l'instrument principal des relations qui fondent la société. Il y a tant de désirs qui naissent avec nous. Attention, je vous ai parlé là des désirs. Ben, d'abord, on a faim, donc il va falloir pourvoir à la faim. Et nous savons que nous mangeons plusieurs fois par jour, donc il va falloir organiser. Et que pour manger, ben, il va nous falloir quand même des choses que l'on apprécie. Vous voyez toute la culture culinaire qui va pouvoir se faire ensuite à partir de cela. Ne serait-ce que la façon de découper un légume, on ne le réfléchit pas. Mais pour nous, c'est hérité, si vous voulez, d'une culture. Alors, je vais pouvoir le peler avec un économe, d'accord ? On a inventé l'outil, mais vous voyez tout ce qu'il a fallu penser pour cet outil-là. Et puis, il y a une façon de couper. Parfois, on peut être surpris chez les gens. Ah, mais vous avez coupé les choses comme ça. Chez moi, on les a toujours coupées ainsi ou comme ça. Il y a une pratique. Il y a une coutume qui nous est donnée. Donc, il y a des désirs. Mais nous avions vu également avec Adam que l'homme n'a pas simplement le désir de connaître. Il a aussi le désir de tout connaître. Le petit enfant qui est dans le monde, tout l'intéresse, tout l'éveille à la vie. Il va poser des questions sur tout, sur les oiseaux, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et parfois la question pourquoi c'est comment ça marche, mais parfois c'est mais pourquoi il y a ça. Et des fois l'adulte n'est même plus capable de comprendre la pertinence de la question de l'enfant. Qui lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut tout connaître, il veut remonter au principe suprême, il veut qu'on lui parle de Dieu, de celui qui fait que tout ce qui est existe ici-bas sur la terre. Donc, on n'a pas simplement des désirs comme ça de nourriture, de boisson, de survie, on a aussi le désir de tout connaître. Mais là, on comprend aussi que les connaissances que nous avons aujourd'hui en l'an de grâce 2022, ben, elles sont le fruit d'années, voire même de siècles, à la fois de transmission et de recherche. Nous n'en sommes pas aujourd'hui à un niveau intellectuel comme ça par hasard. Tout cela est porté par une tradition. On nous a appris, on a transmis le savoir, on fait des expériences, on a les différents accidents qui ont pu avoir lieu, eh bien, ils ont été pris en compte, par exemple, dans la construction des maisons. Un toit, il neige, ben voilà, le toit n'était pas assez solide. Bon, c'est quand même embêtant quand vous y vivez dessous. Vous voyez un peu tout ce qu'il faut aussi comme intelligence. Pourquoi Dieu nous a donné tout cela et cette vie commune ? Elle nous permet non seulement de perfectionner le monde, mais on voit la dignité du genre humain, qui n'est même pas une simple dignité seulement, qui doit être vue de façon, d'une seule personne, mais vous voyez aussi cet ensemble de choses que nous transmettons et qui va fonder véritablement la connaissance du genre humain. Donc, vous voyez déjà dans cette phrase, le pape présuppose beaucoup de choses. Le langage, nous a-t-il dit, c'est l'instrument principal des relations qui fondent la société, mais le maître d'école, il va devoir parler à ses élèves, il va devoir leur transmettre l'histoire du pays, l'histoire de la biologie, l'histoire de la enfin tout. Et surtout qu'on a le désir de tout connaître. Donc il parle du désir, il parle de tous ses besoins de premier ordre, qui resteraient sans objet dans l'état d'isolement, mais qui trouvent leur satisfaction dès que les hommes se rapprochent et s'associent entre eux. Il y a cette association de famille qui va fonder un peuple, qui va fonder un état. Donc voilà, on ne vit pas par hasard en communauté. Dieu veut également, puisqu'il est amour, et bien que, ayant chacun reçu l'amour de Dieu, nous puissions également témoigner de cet amour vis-à-vis du prochain. On ne travaille pas simplement pour, si vous voulez, vivre, survivre, pour faire nourrir sa famille, faire bouillir la marmite, comme on pourrait dire, mais voilà qu'on va également vivre pour témoigner de cet amour. Parce que celui qui fait un travail sans aimer son travail, il y a de fortes chances pour que le travail soit mal fait. Parce que quand on voit un artisan qui travaille bien, c'est aussi parce qu'il y met du cœur à l'ouvrage. Donc vous voyez que tout cela n'est pas non plus indépendant de l'amour. Alors on insiste beaucoup aujourd'hui pour que les enfants trouvent leur voie, qu'ils aiment leur travail, et ça devient parfois très compliqué parce que du coup ils finissent par travailler très tard, à force de demander toujours d'avoir le choix. Mais en tout cas, on comprend bien que pour travailler, il faut aussi aimer son travail, du moins cela va transfigurer le travail. La seconde réalité, nous arrêterons là, dans laquelle je voudrais parler, c'est également celle de l'Église. Je viens là de parler de cette vie commune dans le monde. Je voudrais lire un extrait qui est l'ouverture de l'encyclique du pape Jean XXIII, « Mater et Magistra », où il va nous parler justement de l'Église et de la mission de l'Église dans le monde. « Mater et Magistra », c'est les premiers mots de l'encyclique, ça veut dire « mère et éducatrice ». C'est les premiers mots de l'encyclique. « Mère et éducatrice de tous les peuples ». L'Église universelle, vous savez peut-être que le mot catholique signifie universel. L'Église qui n'est pas aux dimensions d'un État, qui n'est pas aux dimensions d'un continent, qui est l'Église qui est non pas faite seulement pour cette terre, qui est l'Église de l'univers. Je vous ai dit, Dieu a tout créé dans l'univers pour l'homme. Et bien voilà que mère et éducatrice, non pas d'un peuple, mais de tous les peuples, l'Église universelle a été instituée par Jésus-Christ pour que tous les hommes, au long des siècles, trouvent en son sein et dans son amour la plénitude d'une vie plus élevée. Vous entendez déjà ? La plénitude d'une vie plus élevée. Je vous dis, lorsque la philosophie naît, c'est avec la question, d'accord, il y a différentes façons de vivre, mais quelle est la bonne façon de vivre ? Quelle va être la vie bonne ? Ben, ça va être la vie vertueuse. Ah, mais c'est plus difficile de vivre de la vertu. C'est plus facile de s'adonner au vice. Oui, parce qu'il y a eu le péché. Mais voilà que justement, déjà, d'appartenir à l'Église, c'est donc appartenir à cette communauté d'amour et obtenir la plénitude d'une vie plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'elle va être orientée vers la vie éternelle. C'est ainsi que continue le pape. Dans son amour, la plénitude d'une vie plus élevée est la garantie de leur salut. Lorsque nous parlons de la vie commune, nous en parlons forcément après le péché. Donc elle est marquée par son péché et donc du coup elle appelle le Rédempteur, notre Seigneur Jésus le Christ. À cette Église, poursuit le pape, colonne et fondement de la vérité, c'est une citation de saint Paul, à cette Église, colonne et fondement de la vérité, son saint fondateur a confié une double tâche, double mission de l'Église. Engendrer des fils, les éduquer et les diriger en veillant avec une providence maternelle sur la vie des individus et des peuples dont elle a toujours respecté et protégé avec soin la dignité. Donc le Saint Fondateur, notre Seigneur Jésus le Christ, lorsqu'il a fondé l'Église, double tâche, engendrer des fils. Je vous ai dit, le grand projet de Dieu, c'est de faire de nous des fils. Nous sommes adoptés par notre grand Dieu au jour du baptême. Au jour de notre baptême, nous ne sommes plus simplement reconnus comme le fils de notre père et de notre mère, mais nous sommes également officiellement reconnus comme enfants de Dieu. Alors, il y a une réalité naturelle, bien sûr. Mes parents ayant reçu leur vie de Dieu, c'est un principe qu'on appelle en philosophie le non-regressus a infinitum. Je ne peux pas remonter à l'infini. Si je prends ma personne et que je remonte à celle de mes parents et avant deux de mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, eh bien je ne peux pas remonter à l'infini, non pas parce que je n'ai pas la connaissance généalogique des noms, des dates, ce n'est pas de cela dont il s'agit, je ne peux pas remonter à l'infini parce qu'il n'y a pas toujours eu des hommes et parce que l'homme n'est pas à l'origine, il y a bien quelque chose qui a fait qu'il y a eu l'homme, c'est Dieu qui est le Créateur. Donc l'Église, elle est là pour engendrer des fils. Non pas les engendrer selon la chair, c'est ce que saint Jean nous disait dans son prologue. Ceux-là ne sont pas nés d'une volonté de chair, d'une volonté de sang. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Dieu veut faire de nous des fils. Et voilà la première mission de l'Église, c'est celle d'engendrer des fils. C'est ce que le Seigneur dit, allez aux apôtres, hein, de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà que nous devenons fils. Mais la mission de l'Église continue. Engendrer des fils, il faut les éduquer. Je vous dis souvent le mot que je préfère à éduquer, c'est le mot élever, c'est ce que le pape dit en suivant. Il faut les éduquer et les diriger. Ben voilà, on a une direction. Il ne s'agit pas simplement de vivre ici-bas, il s'agit aussi de les diriger. De les diriger vers les réalités d'en haut, nous dirait saint Paul, vers le ciel, vers la vie éternelle. Et le pape précise bien que l'Église, elle veille avec une providence maternelle sur la vie des individus et des peuples. Oui, si les papes se permettent d'intervenir dans tel conflit, dans telle et telle situation, dans quel et tel débat éthique, etc., c'est parce qu'il est dans sa mission. Dans sa mission de faire en sorte que les hommes ici-bas sur la terre soient toujours dirigés vers la vie éternelle. Chaque fois qu'une loi est votée, ce n'est pas simplement un morceau de papier qui va être rangé dans des codes civils très gros et très compliqués à lire. Non, chaque fois qu'il y a une loi, la loi, elle vient théoriser une pratique. Elle va induire une pratique. Alors, il y a des lois, si vous voulez, il y a les passages cloutés. Ben, la voiture, elle doit s'arrêter pour laisser passer les piétons. Parce que si la voiture ne s'arrête pas, elle écrase le piéton, c'est un manque pour la société. Alors, ça peut être rigolo, mais enfin, voyez, le bien fondé, si vous voulez, de la loi. Alors, on a appris, une façon de représenter le passage clouté, il peut y avoir des feux, il peut y avoir un certain nombre de choses, mais je dois m'arrêter pour laisser passer le piéton. C'est une loi qui a été posée. Mais voyez que cette loi, elle induit forcément une pratique. Et la personne qui aura percuté quelqu'un et qui en plus ne se sera pas arrêtée, il y aura en plus un délit de fuite, un délit de non-assistance à personne en danger, eh bien vous voyez que la loi, quelle qu'elle soit, elle induit un agir. Si les lois qui sont votées ne sont plus au service du bien, ne sont plus au service de la vie, voilà qu'il va y avoir la liberté de conscience qui fait que là, on va être tiraillé. Bien, l'Église, elle est là pour justement, c'est comme ça qu'il a commencé, c'est la mère et l'éducatrice de tous les peuples, elle est là pour dire attention, pour donner des arguments, pour pouvoir apporter cette providence maternelle, pour aider à ce que la vie des individus et des peuples soit digne. Cette dignité qu'on a reçue de Dieu, l'Église, elle veille à cette dignité. C'est ce que donc dit le pape en cette citation. Je termine la citation. Le christianisme, nous dit-il, en effet, rejoint la terre au ciel. Le christianisme rejoint la terre au ciel en tant qu'il prend l'homme dans sa réalité concrète, esprit et matière, intelligence et volonté, et l'invite à élever sa pensée des conditions changeantes de la vie terrestre vers les cimes de la vie éternelle, dans un accomplissement sans fin de bonheur et de paix. Si nous parlons de la vie commune dans la réalité naturelle des sociétés que nous formons ici-bas sur la terre, j'avais eu l'occasion de le dire dans les premières leçons de ce catéchisme, c'est parce qu'aussi au ciel nous formerons une société. Une société qui est celle des créatures spirituelles. Il y aura donc avec nous les anges et nous les hommes. Nous formerons une unique société. Il y a une vie commune au ciel. Au ciel, ce n'est pas non plus, déjà ce n'est pas le cas ici-bas sur la terre, mon petit Jésus et moi. Même au ciel, il y a cette dimension collective. L'apôtre saint Jean en témoigne abondamment dans le livre de l'Apocalypse. Il nous parle bien des élus, de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, de ceux qui se trouvent autour du trône de Dieu et qui chantent. Alors, on ne chante pas tout seul, ce n'est pas un solo, c'est un chœur. Et nous chantons, nous le disons à la messe, quand ainsi le ciel et la terre sont réunis, nous ne chantons pas le Sanctus, qui est le chant le plus digne de la liturgie, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, nous ne le chantons pas seul, c'est uni aux anges que nous le chantons en raison de cette société que nous formons déjà avec eux au ciel. Donc voyez comment l'Église ne se contente pas simplement de considérer l'humanité dans ses réalités concrètes et naturelles, elle vise aussi à les élever vers la vie bonne comme moyen d'accès à la vie éternelle. Bien que le rôle de la Sainte Église, poursuit le pape, soit d'abord de sanctifier les âmes et de les faire participer au bien de l'ordre surnaturel, je reprends ce début de phrase qui est important, le rôle de la Sainte Église est d'abord de sanctifier les âmes. Et oui, soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, après sa mort et sa résurrection, ayant ainsi institué l'Église en la confiant à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres qui en sont ses successeurs, et leurs successeurs que seront les évêques, eh bien, on voit bien qu'il y a cette mission qui doit continuer. Il ne s'agit pas simplement de vivre comme ça, il ne s'agit pas non plus de rechercher simplement la vie bonne, il va falloir aussi être sanctifié et vivre de cette grâce que Dieu nous donne à travers les sacrements, pour ne pas simplement vivre comme un homme ici-bas, mais pour avoir comme ces ailes de la grâce qui nous permettent à nous élever à cette finalité pour laquelle Dieu nous a créé, la vie de l'ordre surnaturel. Il nous dit bien, il faut sanctifier les âmes et les faire participer, non pas au bien de l'ordre naturel, on y est comme de plein pied. Un enfant, on est toujours dans une famille qui est lui-même toujours dans un état, qui a toujours une culture, etc. Mais nous, on doit vivre aussi en visant l'ordre surnaturel, cette vie éternelle. Donc, je reprends le début de la phrase. Bien que le rôle de la Sainte Église soit d'abord de sanctifier les âmes et de les faire participer au bien de l'ordre surnaturel, elle est cependant soucieuse des exigences de la vie quotidienne des hommes en ce qui regarde leur subsistance et leurs conditions de vie, mais aussi la prospérité et la civilisation dans ses multiples aspects et aux différentes époques. Là, le pape est en train de dire, puisque avec le pape Jean XXIII et déjà depuis Léon XIII, il y a comme une séparation avec l'Église, ça va être les lois de séparation de l'Église et de l'État, qui se font progressivement, mais enfin, c'est le mouvement qui est dans l'air du temps, si vous voulez. Donc on est en train d'accuser l'Église d'intervenir en économie, d'intervenir dans les lois familiales, d'intervenir dans les lois éthiques, en disant « mais laissez donc les États, occupez-vous de vos fidèles dans vos églises et laissez-nous dans les États ». Non, dit l'Église. Bien sûr, la première mission de l'Église, c'est de sanctifier les âmes, de les faire participer au bien de l'ordre surnaturel. Mais justement, pour sanctifier les âmes et pour participer à l'ordre surnaturel, mais il va falloir que le chrétien puisse vivre dans une société naturelle qui ne passe pas son temps à offenser le bon Dieu, à offenser la vie. Donc du coup, l'Église, elle regarde quand même ce qui se passe dans le monde. Et sans prendre la place de l'un et de l'autre, elle doit être là aussi pour veiller à cette vie quotidienne des hommes. Que font les prêtres? Une homélie, ce n'est pas simplement un commentaire des Saintes Écritures, c'est aussi une actualisation selon ce que nous vivons. Regardez dans ce catéchisme, bien souvent je dis faisons attention parce que dans le monde il y a l'individualisme ou telle et telle réalité. Voilà. On ne vit pas à n'importe quelle époque, ce n'est pas indifférent. Il y a forcément dans l'époque dans laquelle on est des choses qui sont bonnes et des choses qui sont beaucoup plus problématiques. Mais l'Église, elle doit aussi, dans sa prédication, dénoncer les injustices, annoncer clairement la vérité, ce que Dieu attend de nous, c'est dans sa mission. Ce n'est peut-être pas la première. La première, c'est sanctifier les âmes et les faire participer au bien de l'ordre naturel. Mais pour sanctifier les âmes et les faire participer à l'ordre naturel, l'Église peut s'exprimer sur les problèmes de vie quotidienne, ceux qui regardent leur subsistance, c'est pourquoi le pape Léon XIII fera cette encyclique sur le monde ouvrier, sur le juste salaire, sur l'éducation, sur la liberté de la presse, etc. Et puis, on regarde également la prospérité, la civilisation dans ses multiples aspects. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, il y a un ordre naturel et il y a un ordre surnaturel. Il ne se regarde pas en chienne de faïence. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle n'est pas déjà dans le monde surnaturel. L'Église, elle est ici-bas sur la terre. Nous sommes chrétiens en France, les autres sont chrétiens en Espagne, les autres sont chrétiens en Amérique latine ou je ne sais où. Selon la culture, selon les modes de vie, voilà que l'Église va devoir adapter. Et l'Église, parfois, va devoir aussi développer une pédagogie pour essayer de s'élever. Ce n'est pas toujours en faisant miroiter. Parfois, les gens me disent « Voilà, monsieur l'abbé, je voudrais dire le chapelet tous les jours, mais je n'y arrive pas. » On va se rencontrer, puis on va commencer à dire « Écoutez, essayez avec constance déjà de dire une dizaine tous les jours. » Puis quand vous aurez cette habitude, faites-en deux, puis trois. Ben, je donne cet exemple pour bien montrer aussi que l'Église, des fois, elle ne peut pas non plus toujours, elle doit rappeler bien sûr ce qu'il faut faire, mais ensuite il va y avoir des lois de moindre mal pour essayer petit à petit d'élever à nouveau le débat. Donc cette citation de Mater et de Magistra, cette encyclique de Léon XIII, était intéressante dans son introduction parce qu'elle nous permet à nous de comprendre que nous vivons dans des réalités naturelles, certes, mais qui ont tout à être appelées et assumées dans cette vie surnaturelle qui nous attend, puisque nous ne sommes de passage ici-bas que momentanément. Alors nous continuerons à reprendre ces méditations sur cette vie qui nous est commune.